This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pense un homme infidèle? Comment vit-il sa situation, ses mensonges et sa vie quotidienne auprès de son épouse, tout en ayant des maîtresses et parfois même une double vie? C'est l'histoire de Julien que vous vous apprêtez à écouter. À 45 ans, Julien a coché toutes les cases. Une femme qu'il aime, de grands enfants en pleine forme, une belle maison, une vie professionnelle épanouie. Mais, car il y a un mais, une vie intime qui ne le satisfait pas, la disconcordance de libido de son épouse et lui, les grossesses, les premières années des enfants, fatigantes, le manque de communication qui s'installe, et le tabou toujours lié au sexe, sont d'autant de raisons qui ont motivé Julien à chercher ailleurs ce dont il avait besoin. Au début, ce sont de simples jeux de séduction, pour se rassurer. Puis rapidement, des plans sexuels sur des applis dédiées aux gens en couple, afin d'assouvir quelques fantasmes avec un risque plus ou moins maîtrisé. Et enfin, une amante, une véritable amoureuse, avec qui le sexe est magique, charnel, sensuel et intense. C'est une histoire de vie dont on connaît déjà la musique. Beaucoup de films et romans ont été réalisés autour de cette thématique. Julien va pourtant y croire, vivre ces deux histoires en parallèle, sans blesser l'une et l'autre. Et sans surprise, la fin n'est pas très joyeuse. Toutefois, Julien, aujourd'hui, a espoir et aspire au meilleur et surtout à une vie intime qui lui ressemble. Merci à Julien d'avoir partagé son expérience et merci d'avoir accepté de soulever le rideau de l'infidélité. Merci pour votre bienveillance à l'écoute. Ça va, Julien ?
Ça va très bien, merci.
Alors Julien, tu es venu à moi, hein, tu habites dans l'ouest de la France, je suis très contente qu'on se parle, je me rappelle que t'as rempli le questionnaire en mai.
Oui, ouais, c'est possible, j'ai regardé, je me souviens tout à l'heure. Même plus, je sais que c'est un peu lointain.
C'est un peu lointain, ça me permet de rassurer les auditeurs qui m'envoient, ouais, enfin les futurs.
Que tu réponds, tu finis par répondre.
Je réponds toujours, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, mais je réponds toujours. Julien, tu connais le podcast, oui. tu m'as rappelé quelques épisodes qui t'avaient plus parlé que d'autres. Est-ce que, Julien, tu peux me dire quel est le tout premier souvenir qui est lié à ta vie sexuelle, érotique? Est-ce que tu t'en souviens?
Oui, bien sûr, enfin, j'en ai plusieurs qui me reviennent, mais le tout premier, c'est pas vraiment, c'est plus quelque chose d'instinctif, mais je me souviens avoir une petite voisine qui habitait en dessous de chez moi, je devais avoir 5-6 ans et de lui montrer mon zizi en espérant qu'elle fasse pareil. Donc on était plus dans la découverte, ce qu'elle n'avait pas fait.
Ah.
Et du coup je m'étais retrouvé un peu bête avec ça, et voilà. Donc ça c'est vraiment la première pulsion, on va dire. Et après ouais, des histoires plutôt avec des garçons, en fait. Même si ça n'a rien,
ça
n'a rien présumé pour la suite, mais voilà, on était entre copains, je sais pas, pareil, 8-9 ans, puis on a commencé un peu à se découvrir et à se toucher un peu, à se frotter un peu, c'était
la découverte.
La découverte, exactement.
T'es né dans les années 70, ouais. Est-ce qu'on parlait librement de sexualité chez toi ?
Pas du tout.
C'est fou, hein, parce qu'à chaque fois, on s'entend que les enfants des années 70 étaient un peu plus libérés, mais pas tant.
Bah non, effectivement, en plus avec des parents plutôt 68 tard, plutôt cool et tout, mais voilà, avec une bon, après globalement une pas de culture de la parole dans la famille, pas de et voilà, on échange assez peu sur des sujets intimes. Encore aujourd'hui, et donc sur la sexualité vraiment pas du tout, quoi, mais vraiment pas du tout.
Donc si tu avais des questions, tu pouvais les poser à qui?
Je sais pas trop. Je crois que c'était plutôt avec les copains. Il n'y avait pas Internet à l'époque. À l'école, c'était pas dingue non plus. Donc, en fait, pas trop de répondants.
Et puis, il n'y a pas Internet, et puis pas tous les réseaux sociaux.
Voilà, il y a peu de moyens de se cultiver, on va dire, sur la question. Et finalement, les choses se... Bah, t'apprenais un peu sur le tas, avec un peu en fonction de ta personnalité et tout. Mais oui, il y a plein de questions qui étaient... que tu découvres à l'adolescence, quand tu commences à parler à tes copains, tes copines, et voilà.
Donc justement, comment ça se passe pour toi, la rentrée dans la puberté ?
Moi, la rentrée dans la puberté, ça se passe bizarrement, parce que... Enfin, bizarrement, pas vraiment bizarrement, mais... en fait, ce truc de garçon que les gars racontent souvent dans ton podcast, c'est séance de masturbation en commun,
ah oui,
ces trucs-là. Donc j'ai fait ça. Enfin, je suis passé par là. En fait, à vrai dire, la première, j'avais mon meilleur pote à l'époque et en fait, on a commencé à se masturber. Lui était un peu en avance sur moi là-dessus. Donc, il m'a un peu montré le chemin.
Un peu aiguillé, oui.
Un peu aiguillé. et puis, je me souviens que... je me souviens de la première fois où il m'a dit qu'il avait éjaculé parce qu'on se masturbait, on n'éjaculait pas. Mmh. Et c'était, et moi, j'en étais pas là. Et donc, ça avait été assez... assez frustrant, enfin je trouvais ça bizarre, puis j'avais qu'une hâte, c'est que ça arrive, là je sais pas quel âge j'avais, 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et puis après, voilà, après bon c'est arrivé hein, finalement, je vous rassure. et on a, voilà, j'ai commencé à regarder un peu des pornos avec des copains, mais à l'époque c'était VHS.
C'est ce que je voulais dire, c'est des cassettes, alors les VHS c'est des cassettes, ouais. c'est plus ancien que le DVD. C'est procuré, c'était quoi ? Vous alliez taper dans les réserves des parents ?
Ouais, j'imagine. j'étais pas fournisseur.
Il y en a toujours
un qui a. Ouais, puis il y avait quand même. Il y avait Canal, il y avait le film de. Donc il y en avait un qui devait magouiller pour enregistrer le film sur Canal ou quelque chose comme ça.
Tous les premiers samedis du mois, il y avait un porno érotique sur Canal.
Voilà,
ouais.
Sur Canal. C'était porno hein, sur Canal. Ouais. Okay. Il y avait des films érotiques sur M6.
Ah oui, c'était sur M6.
C'était vraiment. T'espérais apercevoir un bout de sein et tu passais une heure et demie devant la télé en cachette pour ça.
C'est souvent
déceptif.
J'imagine. Donc tu traverses là, doucement ta puberté, tu es au collège, lycée, comment ça va se passer avec les filles ? C'est les filles pour toi tout de suite ?
Ouais, alors moi c'est les filles sans doute en fait. Ça, j'ai jamais vraiment eu de doute là-dessus. Je pense qu'on reparlera de ça après, mais c'est la vraie découverte, c'est avec une fille, je dois avoir 15 ans. Qui est une fille qui est déjà très intelligente, plutôt belle, et qui est hyper à l'aise avec son corps, avec sa féminité, avec sa sensualité.
À 15 ans.
Elle a 15 ans. Et en fait, elle m'aspire dans ce truc-là, duquel moi je suis assez éloigné, pour la raison que j'expliquais avant, puisque j'étais dans la découverte complète. Mmh. Et en fait, cette fille-là, elle m'a vraiment éveillé à l'érotisme plus qu'autre chose. Ça n'a pas été mon premier rapport sexuel, hein, c'est important. C'est que j'ai découvert. Enfin, non, pardon, ça n'a pas été ma première pénétration.
D'accord.
C'est mon premier rapport sexuel.
C'est beau la déconstruction au fur et à mesure.
Ouais.
C'est touchant.
C'est vrai, parce qu'on non, mais souvent on entend pénétration pour la fille aussi. Ben là, c'était pénétration digitale, par contre, ça oui. Mais c'était hyper doux, c'était un peu intellectuel. On écoutait Lou Reed et on se caressait. Enfin, je la caressais beaucoup, quoi. Ouais, moi, en fait, j'ai découvert vraiment le sexe comme ça plus en caressant une fille qu'en me faisant caresser moi, et j'ai trouvé ça assez incroyable. Mm-hmm. Et c'était, voilà, donc cette première fille m'a éveillé, on va dire. Mm-hmm. Voilà,
c'est une jolie entrée en matière, en tout cas.
C'est une jolie entrée en matière, c'est un excellent souvenir. Et ensuite, j'ai eu une petite copine pendant plusieurs années, pendant 4 ans.
Donc au lycée. Ta
période au lycée,
de lycée, ouais.
Ouais, une fille avec que j'ai rencontrée, dont je suis tombé amoureux. Voilà, tous les potes étaient amoureux d'elle, c'est moi qui ai réussi à la voir.
Et encore la fierté quelques années après.
Ouais, quelques années après. Ouais, non, mais voilà, c'était une histoire d'amour, quoi. Et puis on a eu notre premier rapport sexuel, donc avec pénétration, mm-hmm. cette fois ensemble.
De bons souvenirs.
Ouais, alors pas un souvenir incroyable pour être tout à fait franc, parce que c'était vraiment, comme souvent dans ces cas-là, on tâtonne.
Un peu maladroit.
On avait déjà eu des rapports sexuels. Enfin, on s'était déjà touché, etc. Mais bon, le moment de la pénétration, et elle était vierge, donc c'était un événement, quoi, à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc je suis resté quelques années avec cette fille, et ça se passait plutôt bien sexuellement. Mais en fait, là, c'est pareil, j'avais pas de repères, donc je savais pas trop. Ce que ça voulait dire, en fait, ça se passe bien, pas bien, ça se passait bien, c'est-à-dire on avait des très bons rapports, mais il y avait un peu ce truc de me dire, je j'arrive pas à savoir si je m'éclate ou pas, si c'est toujours comme ça avec tout le monde, voilà.
Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok.
T'as pas trop de références, ouais, en fait, c'est ta première copine, et puis tu restes avec elle assez longtemps, donc en fait, tu sais pas si ça peut être mieux ailleurs. Bon, du coup, ça m'a déterminé à aller voir ailleurs après.
C'est vrai qu'en plus, ces premiers couples-là, généralement, après, on va pas dire tous les couples comme ça, mais dans un schéma hétéronormé, tu vas avoir une espèce un peu de reproduction aussi du couple que tu vois, qui sont tes parents. Donc, il y a un truc un peu de couple un peu établi, un peu qui joue un peu au grand. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que c'est... pas forcément peut-être la bonne place du couple quand t'as 17, 18 ans, quoi.
Exactement. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, moi, justement, quand je me suis mis avec elle, et donc quand on a fait l'amour avec pénétration pour la première fois, j'avais 17 ans, elle aussi. Et on est restés ensemble jusqu'à nos 21 ans.
Donc vous faites votre début d'études ensemble ?
On fait notre début d'études ensemble. On vit beaucoup de choses ensemble. On explore quand même sexuellement des choses. L'anal, des choses qui dont elle a envie, en fait, aussi
qu'elle motivait.
Moi, je toujours été très très à l'écoute comme ça, et très dans le, je sais pas, je me suis toujours fait un peu guider, en fait, et puis à un moment donné, j'ai eu effectivement envie de découvrir d'autres choses. Et on s'est séparés, je commence à avoir d'autres expériences et à découvrir que ça pouvait être quand même un peu plus fou que ce que je vivais, un peu plus excitant, un peu plus... parce que c'est un peu ce que tu disais, il y avait ce côté, tu reproduis ce que parents... Enfin, en tout cas, la mentalité, tu as une charge comme ça, sociale, qui est importante. Et finalement, comme moi, je parlais pas trop de sexe à la maison, comme même cette fille avec qui j'étais, elle était un peu culturellement dans le même truc que moi, finalement, on s'était mis un niveau qui assez commun.
Et puis tu verses tout de suite sur des habitudes parentales, des trucs un peu...
Ouais, exactement. Et puis encore une fois, t'as pas de référence. Donc moi, après, j'ai rencontré des filles qui étaient beaucoup plus libérées sur plein de trucs, et ça me faisait un peu peur, en fait. C'est-à-dire que je me disais, waouh, elle parle de ça, mais vraiment crûment, presque, ça me bloquait, quoi. C'était un peu comme ça au début, donc ça a été aussi un autre apprentissage qui s'est fait dans le temps. Donc là, j'ai eu entre 21 et 25 ans, 4 ans, pendant lesquels j'ai rencontré pas mal de filles, dont une avec qui vraiment j'ai découvert le sexe dans toute sa dimension exploratoire, et en me disant, ah ouais, ok, là on est vraiment...
Donc c'est-à-dire, vous faites quoi ensemble?
En fait, c'est pas qu'on fait des choses incroyables ensemble. On fait deux trois trucs incroyables, incroyables dans des situations qui pour moi étaient incroyables à l'époque, mais genre on fait l'amour dans un ascenseur, on fait
c'est déjà pas mal.
Ouais, bon, on pratique l'anal, on fait et puis en fait, c'est surtout le truc de je sais pas, en fait, un rapport au sexe où c'est une fille qui a toujours envie, et moi c'était hyper important, ça, c'est-à-dire qu'elle me désire et que je ressens ce truc-là.
Donc c'est la libido aussi, c'est ça?
Oui, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, toutes les partenaires avant, il y avait un désir, évidemment, ça se passait très bien et tout. Mais là, il y a vraiment une envie de... une libido, sans doute. Une envie de sexe permanente. Et du coup, tu étais tout le temps en train de faire l'amour et tout le temps en train de, de penser à ça quelque part
et de jouer avec ça
et ça devient très présent dans ton quotidien et quelque part ça donne une autre dimension à ton quotidien.
Ah bah bien, c'est sûr. Et puis en plus le sexe s'appelle le sexe, donc en plus vous chauffez toute la journée, vous retrouvez, vous faites l'amour et etc vous débriefez, bah oui, c'est que c'est tout le temps intense quoi.
Ouais, tout à fait.
Et donc ça, vous êtes dans une relation tous les deux?
On a une relation qui dure 6 mois.
Ok.
On a une relation qui dure 6 mois parce que voilà, après autant ça se passe très très bien sur le plan sexuel, autant sur le plan personnel, la personne avec qui je me sens d'être. Puis j'ai quand même toujours un peu ce schéma de me mettre en couple, de ramener quelqu'un à mes parents qui
avec
va plaire à mes parents.
Un peu plus, ouais.
Et en fait, je me dis cette fille-là, bah ça va pas passer à la maison. Et puis je suis quand même dans cette idée de me mettre en couple, quoi. Donc finalement, ça le fait pas. Et là, je me mets en couple. J'ai 25 ans.
Ok.
Et je me mets dans une histoire de couple qui va durer presque 20 ans.
Ok. Donc là, dedans. T'es
voilà.
Dedans, aujourd'hui.
J'en sors il n'y a pas longtemps, ouais.
Ah, d'accord.
J'avais pas
eu l'info. Ok, donc là, tu vas vivre 20 ans. C'est pour ça que tu me disais que l'épisode avec Sébastien t'avait parlé.
Ouais.
Parce que lui parle effectivement d'une vie maritale longue. Et un désert sexuel pendant longtemps et une femme avec qui il va pas trouver de terrain d'entente sur leur sexualité. Donc, tu as passé 20 ans avec cette femme.
Ouais.
Comment ça se passe au début?
Au début, ça se passe très bien.
Ouais.
Ça se passe très bien, toujours pareil. C'est-à-dire, je redescends un petit peu dans le level que j'avais avant. C'est-à-dire, un truc assez soft, un peu vanille, quoi. Ouais,
mais elle a les critères pour la présenter à tes parents, par contre.
Ouais, voilà. En fait, je trouve que socialement, il y a quelque chose qui match mieux avec moi, qui effectivement, ce truc, je pense, auquel j'ai repensé plus tard, je me suis dit, c'est la belle fille idéale. Elle est parfaite. Et en fait, l'aspect sexuel n'était pas finalement prépondérant dans ce choix-là. C'était un ensemble de choses. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Hein. C'est voilà. Mais du coup, l'aspect sexuel est plutôt passé au second plan.
Et à ce moment-là, ça te dérangeait pas spécialement?
Et à ce moment-là, ça me dérange pas spécialement parce que d'abord, on fait l'amour, ça se passe très bien. J'ai pas de frustration. Mais j'ai quand même un peu dans la tête toujours cette histoire assez récente avec la fille d'avant où je me dis bon, là pour le coup, j'ai un point de comparaison et je me rends compte que c'est quand même beaucoup moins
intense.
Tout à fait.
Donc vous commencez votre vie, vous allez vous vivre ensemble assez rapidement?
On va vivre ensemble, pas tout de suite, non, parce qu'on habite à deux endroits différents. Et les deux premières années, je crois, on vivait on était à distance, quoi.
Donc ça, c'est pas mal pour la sexualité, ça.
Ouais, ça booste un peu le truc, mais c'était bien, mais pas dingue, quoi.
Et là, vous vous habitez ensemble, ensuite?
Ouais, ensuite, on se met ensemble.
Et vous invitez donc la routine chez vous?
Et on invite la routine un peu chez nous, on invite la vie à deux, la baisse de libido, enfin le fait que déjà, on n'est pas dès le départ dans quelque chose d'hyper intense, enfin forcément peut-être les premières semaines, les premiers mois, et encore que je pense que c'était pas fou, mais oui, petit à petit, ça se délite encore un petit peu plus, tu as... des relations moins fréquentes, après une libido qui globalement baisse plutôt chez elle quand même. Moi je m'en accommode parce que je suis amoureux, parce que en fait on a tous les deux des jobs prenants, que on a le souhait de construire une famille, donc finalement tu te rends pas trop compte, enfin en tout cas moi je me rentrais pas trop compte de ça.
Tu vois, bon, tu le vis au quotidien, donc comme tu dis, tu t'en rends pas forcément compte, mais est-ce que vous en parlez de temps en temps? Est-ce que c'est un élément de discussion?
Bah non. Je pense que c'est un des gros sujets dans cette histoire, c'est qu'on ne parle pas.
D'accord.
C'est d'ailleurs ce qui m'avait aussi interpellé dans le témoignage de Sébastien, c'est qu'il disait qu'il y avait un mutisme dans son couple. Bah, moi, j'étais face à la même chose, c'est-à-dire que globalement sur les sentiments et sur le sexe on se parle pas, quoi. Si ça marche pas, s'il y a quelque chose qui va pas, on se parle pas, parce que je pense qu'on a tous les deux un peu cette culture là familiale, un peu taiseuse
de la pudeur.
Ouais, ouais. C'est très juste, parce que la pudeur la pudeur, elle est dans les mots, elle est dans la façon de communiquer, elle est aussi dans les corps. C'est-à-dire qu'il y a, ce truc de, pour elle, de pas être à l'aise nu face à moi. Moi, de pas être à l'aise nu face à elle, parce qu'après, c'est aussi un.
C'est un miroir aussi. Voilà, bien sûr.
Et donc, on est dans cette pudeur complètement globale.
Ouais. Et donc, du coup, ça s'installe chez vous, effectivement, ce manque de libido, cette sexualité qui va s'étioler. Puis j'imagine que les rendez-vous se font dans le lit conjugal. Enfin, voilà.
Il n'y a plus d'ascenseur.
Il n'y a plus d'ascenseur, c'est joliment dit. Est-ce qu'il y a des temps dans ces 20 ans de vie commune qui vont te marquer plus que d'autres ? Est-ce qu'il y aura des très longues périodes où vous allez arrêter de faire l'amour ? Est-ce que...
Ouais, il y a des très. En fait, je pense que dans la durée, c'est de pire en pire globalement. C'est-à-dire que, au début, je pense les 10 premières années, pour schématiser, moi, ça me frappe pas trop. Je me dis que peut-être c'est comme ça, et puis c'est pas très grave. Bon, je commence à quand même avoir envie d'autre chose, un petit peu regarder un peu ailleurs ce qui se passe, me dire pourquoi pas une aventure extérieure, mais je suis quand même très amoureux, j'ai pas du tout envie de briser mon couple, j'ai pas du tout envie de
le schéma, le fameux schéma
de
aussi.
La trahir, et du coup je reste là-dedans en me disant que finalement c'est aussi mon choix et que c'est pas grave, je prends ce qu'il y a de bon à prendre et puis ce qui est moins bon je le prends aussi, donc
c'est bon.
Donc ça se passe comme ça les 10 premières années,
Pardon, sur ces 10 premières années, est-ce que toi de ton côté, pour te satisfaire aussi, est-ce que tu vas regarder du porno, tu vas avoir des moments avec toi, est-ce que tu vas aller un peu plus dans la masturbation, comment tu vas...
Ouais, clairement, plus dans la masturbation, le porno, ça n'a jamais été trop ma came. On regarde un peu comme tout le monde, je pense.
Alors non, il n'y a pas de comme tout le monde.
Tout le monde regarde un peu, quoi. Il y en a qui regardent beaucoup, mais...
Il y en a qui regardent pas, il y a une moyenne.
Il y en a qui regardent pas.
Mais je suis d'accord.
Je regarde un peu de porno, sans avoir rien d'addictif à ça, mais oui, je masturbe régulièrement.
Et ça, t'en parles pas du tout avec ta femme?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est presque le tabou ultime, j'aurais dire, mais... Non, on n'en parle pas, alors qu'effectivement, ça aurait pu, mais... On a vraiment pas de dialogue sur le sujet, quoi.
Tu avais peur de la blesser? Tu avais peur, toi, de paraître, je sais pas, trop vulnérable. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, un peu avec le recul, à poser la raison de ne pas lui en parler ?
La raison de ne pas lui en parler, je pense, c'est la pudeur, vraiment.
C'est ça.
En fait, quand tu es dans cette culture-là, ce schéma-là, que tu... Alors déjà, c'est ta culture. En plus, tu es avec quelqu'un qui a la même culture que toi. Et finalement, la culture, c'est de pas se parler, de pas se dire les choses. Et en plus, il y a une, elle est dans un certain classicisme, on va dire, par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'elle a une vision de la sexualité qu'elle a rien contre et tout, mais ça doit rester très
vanille.
Très vanille, très classique. Et du coup, elle a pas du tout, par exemple, moi, avec cette fille avec qui j'étais avant, un des trucs que j'adorais, c'est qu'elle se masturbait quand on faisait l'amour. Même quand je la pénétrais, je trouvais ça vachement bien, que ça créait quelque chose de plus. La personne avec qui je suis resté 20 ans n'a jamais fait ça. Parce que je pense, j'ai essayé ça pour le coup, j'ai essayé de lui dire que je trouvais ça excitant, qu'en plus, je trouve que c'est encore mieux pour elle, sans doute. Mais elle n'était pas du tout à l'aise de le faire. Je sais pas exactement pourquoi elle l'a jamais fait. Peut-être parce que ça lui plaisait pas, tout simplement, mais peut-être aussi parce qu'elle n'était pas à l'aise dans ce geste-là. Je sais pas.
N'oublions pas que seulement 6% des femmes peuvent avoir un orgasme juste vaginal.
Voilà.
Quand tu sais ça, tu te dis, faut y aller quand même.
Ouais.
Est-ce que tu penses justement que c'est ton ex-femme, du coup,
ouais,
se masturber?
Ouais, je pense que ça lui arrivait, clairement. Je pense que ça lui arrive.
Mais tu penses?
Oui, je ne sais pas. Non, on n'a jamais eu cette discussion. Okay. Même si ça paraît un peu, effectivement, étonnant, mais je pense qu'il y a plein de... Enfin, en tout cas, pour moi, par ma génération, pour les gens que je connais, je pense qu'il y a beaucoup de gens dont c'est le cas.
Bon, on lui souhaite.
Plutôt rarement, je dirais. Mais
oui, c'était pas quelque chose qui était... c'était pas une sexualité parallèle à la vôtre, c'était occasionnel, éventuellement.
Pour elle, tu veux dire ?
Pour elle, ouais.
Ouais, j'imagine, mais encore une fois, j'imagine.
Et toi, c'était parallèle, par contre ?
Moi, c'était vraiment une sexualité parallèle, pour le coup. C'est-à-dire que... après, La masturbation pour moi n'est pas du tout incompatible avec une vie bien sexuelle, même bien remplie. Oui, oui. Je pense que c'est deux choses différentes.
Au contraire, d'ailleurs.
Ouais, au contraire. Et mais effectivement, c'était c'est pas quelque chose dont on parlait, okay, parce que c'était pas ça sortait de notre zone de confort.
Ouais, je comprends. Donc tu parles de ce premier tronçon de 10 ans et donc la deuxième décennie.
Bah, la deuxième décennie,
vous
moi
j'avais des enfants.
Ouais.
Ok.
Ouais. Donc on a des enfants. Effectivement.
Donc il y a ça aussi dans la balance.
Ouais, il y a ça aussi.
Les grossesses,
alors oui, les grossesses qui ont, bah, pour le coup, qui ont été une période, en tout cas, de disette complète, hein, parce qu'elle n'était pas du tout en mode...
D'accord.
Enfin, les hormones ne bossaient pas dans le bon
D'accord.
sens.
D'accord, c'est pas le mythe de la femme enceinte qui a faim.
Non, bah, et à ce qui paraît, là, pour le coup, il y a un peu de tout, il y en a, ça leur coupe complètement la chic, et d'autres, au contraire, ça décuple la libido, mais là, non, c'était pas le cas, c'était donc plutôt rideau. Et effectivement, ça a été un peu la première fois où c'était vraiment très long. Enfin, on parle plusieurs mois avec où il se passe rien du tout, quoi. Okay. Et puis il y a pas de désir en face, tu vois. C'est ça qui est dur aussi, en fait. C'est pas juste parce qu'effectivement, tu peux te masturber et dire bah ok, je vais sortir le truc. Mais
je pense que tu veux dire, c'est qu'en face t'as pas de.
Ouais, en face t'as quelqu'un qui te désire plus. Et je disais ça tout à l'heure parce que je trouve que c'est pour moi, en tout cas, dans le désir et dans la libido, quelque chose d'hyper important, c'est de sentir le désir chez l'autre et de qu'il ait envie de toi ou qu'elle ait envie de toi et que ça se ressente, en fait.
Ça magnifie le rapport sexuel.
Ça change tout, le rapport sexuel. C'est-à-dire que après, tu parlais de routine, t'as un peu le devoir conjugal qui est là un peu, et parfois t'as l'impression de faire l'amour avec ta femme ou avec ton mec probablement, et qu'il le fait parce qu'il faut le faire, quoi. Ouais. Et là, pour moi, on est dans rien de autant se masturber, quoi, parce que ça à la limite, ça fait le même effet et c'est presque moins frustrant.
Voilà, ça t'as moins le sentiment de culpabilité de, bien sûr.
Ouais. Après, non, t'espères bien. Toujours, c'est-à-dire tu lances un peu. Après, moi, on était rentré dans ce truc où moi je venais essayer de voilà, et puis bon, c'est... après t'arrives avec des gros sabots, c'est-à-dire ok, tu fais deux trois trucs qui la personne en face comprend que ah, ok, il a envie, bon mais allez, on y va.
T'as senti qu'il y a eu des fois comme ça?
Ah ouais,
des
plein fois, de fois, ouais. Plein de fois où c'était bon, c'est un peu pour me faire plaisir, quoi, et ben en fait ça me faisait pas vraiment plaisir, quoi.
Et tu te sens mal après?
Culpabilise, tu veux dire si je culpabilise?
Ouais, une espèce de sans... oui, parce qu'il y a son consentement, mais tu te sens un peu genre pff, tu
non,
vois.
Non, mais il y a pas de problème de consentement, c'est-à-dire elle le faisait, voilà, mais elle le faisait sans envie, en fait. C'est pas oui, de toute façon on était ensemble, j'étais son mec, il y avait pas aucun débat là-dessus. Puis alors pour le coup, moi je enfin hyper attentif à ça, et
il y avait pas le feu.
Il y a pas le désir, enfin il y a pas vraiment de désir, c'est-à-dire il y avait le un peu ce côté voilà, on fait le job, quoi, parce qu'il faut le faire, mais voilà, sans vraiment de désir, sans vraiment d'envie, et en fait ça c'est presque pire que de pas faire l'amour, en fait.
Je comprends. Donc il y a les grossesses, puis il y a les bon l'accouchement certes, mais il y a aussi les premiers moments quand il y a un bébé.
Ouais.
Et ça éclate la vie de couple.
Bah ça éclate la vie de couple, ça prend beaucoup beaucoup de place. Après ça dépend des configurations, mais t'as pas forcément d'intimité,
parce que
t'as un bébé qui dort à côté de toi, donc voilà, si t'es dans la pudeur, bah tu vas rien faire à côté de ton gamin, même s'il a deux mois et qu'il comprend rien, bah voilà.
Les corps sont fatigués.
Les corps sont fatigués. Il y a bon pour la femme qui traverse une épreuve quand même un peu destructrice. C'est compliqué. Il faut effectivement revenir. Puis voilà, tu prends du poids, t'es moins bien dans ton corps. Enfin, j'avais pris du poids aussi. Hein, donc
on était tous les deux
dans notre.
Non, puis t'es épuisé.
Et puis voilà. Donc nous, ça n'a fait que prolonger finalement une situation qui était déjà pas terrible. Mm-hmm. Voilà. Et moi, voilà, ça m'a petit à petit de plus en plus ouvert à me dire bon, bah, peut-être il faut aller voir ailleurs. Peut-être qu'il faut.
Et t'en parles ça à des amis?
Non.
T'as pas un très très bon ami à qui tu peux parler de ça, ou une très bonne amie à qui tu peux un peu t'épancher sur ce sujet?
Non, moi j'ai beaucoup d'amies féminines, mais c'est des sujets. Alors je pense qu'on, Enfin, voilà, j'ai des amis qui me ressemblent comme souvent. Mais voilà, il y a quand même souvent cette pudeur globalement dans mon couple, mais aussi avec mes amis, avec les filles comme avec les garçons. Bon, les garçons, c'est un peu différent parce que t'as toujours un peu la blague, t'as toujours un peu le côté, on parle de cul, puis t'as toujours un copain un peu que tard au milieu et qui lui a plein d'aventures incroyables et qui est complètement libéré par rapport au sexe. Donc tu vas un peu parfois t'ouvrir un peu, mais
oui.
Après, quand t'es en couple avec depuis plus de 10 ans avec quelqu'un, tes copains, voilà, ils ont une vision qui est quand même que t'es en couple et t'oses pas trop leur dire que t'as envie d'aller voir ailleurs, même si eux aussi. Enfin, en tout cas, moi, dans mon environnement, c'était comme ça. Donc non, j'ai pas vraiment eu d'opportunité de parler librement de ça, en tout cas.
Ce serait super parce que du coup, je pense que quand tu ouvres un peu ça, je suis sûre qu'en ricochet, t'en as plein qui pourraient s'ouvrir.
Ouais.
Et tu vois, ce serait une discussion.
Ça a été plus le cas ensuite. Là, je te parle vraiment de cette période après 10 ans. Maintenant, ça a un peu évolué.
Mmh.
Ça a un peu évolué. Ouais.
Donc, tu commences à réfléchir à l'idée, effectivement, de voir ailleurs. Est-ce que tu te dis, c'est juste pour que ma vie sexuelle soit moins triste, si je peux me permettre,
ouais.
Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une femme qui me désire, une amante, une vraie maîtresse, dans le sens où je veux avoir quelqu'un en parallèle. Tu l'intellectualises un peu ou...
Je sais pas si je l'intellectualise. En tout cas, je me dis déjà, j'ai besoin de plaire.
Ouais.
Essentiellement. C'est-à-dire, j'ai besoin de plaire, peu importe. Enfin, la finalité sexuelle, elle est toujours un peu latente, mais surtout, le truc, c'est de se dire, tiens, j'ai besoin de plaire et de sentir du désir chez quelqu'un. Donc, au début, c'est plus de la drague à te dire, voilà, j'ai juste besoin, en fait, que quelqu'un me renvoie une image positive de moi. Donc, ça, tu cherches un peu l'ego booster, tu cherches un peu plus ça que vraiment. Et puis, au départ, je me dis, de toute façon, je vais pas la tromper. Ça fait de mal à personne, exactement. Donc après, tu as la question où est-ce que ça commence, mais ça, en tout cas pour moi, ça commence comme ça. Et c'est pas. Alors je dis pas que c'est neutre parce que ça l'est pas, mais ouais, je dragouille un peu, mais je suis rien de méchant, quoi.
Et tu fais attention à pas dépasser les limites à ce moment-là.
Je fais attention à pas dépasser les limites. Je fais attention à pas dépasser les limites.
Et ça te fait du bien.
Ça me fait beaucoup de bien et puis je rentre dans ce truc là qui marche pas trop mal en plus et qui me rassure, qui me renvoie quelque chose de positif et qui me permet en fait aussi de continuer à vivre comme je vis dans cette histoire qui a plein de choses positives et d'autres aspects moins positifs. Et puis avec le temps, je commence un peu à aller sur des sites de rencontres, je commence un peu à...
Est-ce que tu vas sur des trucs spéciaux pour tromper sa femme ?
Ouais, ça m'est arrivé.
Ah là là, c'est bien ou pas alors ?
En vrai, non, c'est nul.
Ah mince.
Non, c'est
Vous avez fait une campagne incroyable.
Ah, incroyable, ouais, ils avaient fait une belle campagne. Non, ce genre de site, j'ai testé parce que tu te dis, c'est parfait, je vais trouver des gens qui sont à la même config que moi.
Donc, silence
total. Silence, des gens qui cherchent juste discrétion. Un truc à côté, qui sont bien dans leurs histoires. D'ailleurs, c'est ce que souvent les personnes racontent là. Mais en fait, c'est un territoire qui est un territoire de femmes, pour le coup, où les femmes ont le pouvoir. Et en fait, je pense en face que beaucoup de mecs très anciens ou je sais pas, beaucoup de charros qui sont moi je suis pas là-dedans en fait, je suis dans la séduction, je suis dans un truc un peu plus quali quoi, et en fait je me retrouve parfois à discuter des heures avec des meufs, enfin, au final je reçois la photo et je me dis mais même pas je la drague dans la rue, donc et elle elle a mis 8 heures à me parler parce que elle est assaillie de messages. Et en fait,
c'est pas très égalitaire comme rapport.
C'est pas du tout égalitaire et surtout c'est très compliqué quand t'es un mec quoi, parce que tu peux pas, enfin t'es Je pense que c'est compliqué quand t'es un mec et je pense que c'est malgré tout, bizarrement peut-être, mais assez compliqué quand t'es quelqu'un qui cherche un peu la conversation, enfin qui cherche pas que à dire
sexe,
je t'envoie une dick pic et puis ça va aller vite quoi.
Ouais, je comprends.
Donc, je vais sur des sites, je sais plus d'ailleurs sur quoi, mais je rencontre des filles avec qui je sympathise un
peu.
Donc
tu dates vraiment là ?
Et je date vraiment, mais je fais des dates un peu comment dire, avec des filles qui sont là pour le sexe. Clairement, on n'est pas dans une histoire. Et donc, on s'invente un peu des scénarios rigolo qu'on met en action.
Donc là, tu consommes.
Là, je consomme, ouais.
Et la première fois, tu t'en rappelles comment ça s'est passé? Comment t'étais?
Comment j'étais dans, psychologiquement, tu veux dire?
Parce que, ouais, ça faisait quoi? Ça faisait déjà 15 ans que tu avais de la vie commune?
Ouais, ça faisait à peu près.
Tu n'avais
pas
touché un autre corps que celui de ta femme depuis 15 ans.
Ouais.
C'est très long, 15 ans.
C'est très, très long, 15 ans.
Donc, du coup, t'es comment quand tu...
Bah, t'es hyper tendu, quoi. D'abord, parce que t'as ce truc de dire, bah, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien.
Ouais.
T'as l'appréhension, plus
coucou, bon. Le bagage judéo-chrétien, coucou.
Ouais, exactement. Et puis effectivement, je sais pas pourquoi, mais je crée des situations qui peut-être parce que, justement, c'est pas classique, mais c'est très scénarisé. Voilà, la première fille que je rencontre, je l'attends dans un bureau vide, sur une chaise, des yeux bandés.
D'accord. Mais t'as peut-être besoin de rendre la chose fictive.
Ouais, peut-être.
Pour que ce soit, tu vois, pas ton
quotidien. En fait, je l'ai pas vue, quoi.
Ah, t'as pas vu la nana?
Je l'ai pas vue. J'ai les yeux bandés.
Elle est là ce soir. Non, pas du tout.
Elle est là. Et en fait, elle me fait une fellation. Je pense que je jouis en 8 secondes, quoi.
C'était son trip aussi? Vous aviez tout vu ensemble?
Ouais, c'était son trip. Ouais, on avait tout préparé ensemble. Elle était hyper excitée par le truc. Et moi, je suis confus, absolument confus, parce que je te dis, je jouis très, très, très vite. Et en fait, ce truc-là qui était assez scénarisé et tout, finalement, ça a duré une minute, quoi. Mais la fille très cool, elle me dit, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est presque cool que tu aies joué aussi vite. Parce que à la fois, j'étais hyper stressé, mais hyper excité.
Bien sûr.
Et voilà, et elle est partie.
Tout le scénario a dû être inventé, devait être incroyable.
Ouais. C'était une fille qui était pareille, qui était elle dans une relation aussi. Elle faisait ça pour s'éclater, quoi. Et puis, voilà.
Ok. Ah oui, effectivement. C'est vrai que tu fais des choses pas très classiques, quoi.
À ce moment-là, c'était ça, quoi. Et après, il y a eu d'autres histoires un peu comme ça. Voilà.
C'était des fantasmes que tu réalisais?
Ouais, c'était un peu des fantasmes, okay. Enfin, je me disais, ok, qu'est-ce qui m'excite? Puis, je pouvais pas être dans un truc de drague où tu dates une meuf et tu vas dans un bar et puis tu la ramènes chez toi. Moi, c'était pas possible. Donc, fallait que ce soit autre chose. Fallait aussi que ce soit pas, c'était bien que ce soit des gens qui sont en couple aussi parce que, qui soient dans la même configuration que moi.
Tu t'assures une forme de discrétion évidente, ouais.
Et voilà, j'avais trouvé, j'ai réussi, je sais plus encore une fois sur quelle appli ou site à trouver, du répondant là-dessus et des gens des filles qui étaient, qui aimaient bien ces histoires-là. Et j'ai fait ça 4-5 fois dans des schémas un peu bizarres à chaque fois, comme ça, comme là, c'est moi qui avais demandé, une autre fois, c'était la fille. Donc voilà, il y a toujours un peu ce truc-là.
Et là, toutes les auditrices me demandent, je les entends, je vous entends, est-ce que tu culpabilisais?
Bien sûr, je culpabilisais. Je culpabilisais et en même temps, j'avais très envie d'y retourner, quoi.
Ouais.
Parce que c'était génial. Et donc, oui, je culpabilise à bloc et je me dis, c'est pas bien. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas bien, mais en même temps, c'est pas bien à la maison non plus. Et je pense qu'elle le sait.
Ah.
Je pense pas qu'elle sait elle sait que c'est pas bien à la maison, elle s'en rend compte.
Parce que t'as des couples parfois où tu vois qui sentent ou qui tu vois et c'est tu le couple libre est tu.
Ouais.
Mais non, ta compagne s'en est pas douté.
Ah non, et puis ma compagne est plutôt très jalouse et pas du tout ouverte sur la question. C'est-à-dire que
c'est pour ça que je t'ai pas posé la question parce que ça me paraissait assez évident du portrait que tu en as fait un peu plus tôt. Ouais. Évidemment, tu n'as pas parlé de couple libre avec ta compagne.
Non, je lui ai pas du tout parlé de ça. Et c'était pour moi, ça m'explosait à la tronche, ça faisait voler toute l'histoire, la famille en éclats. Donc il fallait que ce soit extrêmement discret.
Donc tu fais ça pendant quoi? Quelques années?
Ouais, je sais pas, ça dure 2-3 ans peut-être. Enfin, ça arrive pas souvent quand même. C'est quand même
ton jardin secret, personne
ne
sait.
Ouais, c'est complètement... Personne ne le sait, c'est mon jardin secret à toi maintenant du coup.
Mais, et quelques personnes, on ne dira pas combien, mais quelques personnes.
Et voilà, et puis après je retombe sur une copine quelques années après qui était un peu ma sex friend quand j'avais justement cette période entre 20 et 25 ans. On sortait tout le temps en boîte ensemble. Mais on n'a jamais été en couple et tout, mais souvent comme quand ni l'un ni l'autre n'avait chopé, on se chopait en rentrant.
Les bons amis, ça.
Les bons amis, voilà. Et ça se faisait assez naturellement et régulièrement.
Et très cool.
Ouais, très cool, mais sans qu'il y avait pas du tout de sentiment, quoi. C'était d'accord. Vraiment que du cul et de l'amitié, quoi, en fait. Donc c'était
bon. Donc des formes de sentiments finalement. Hein.
Oui, c'est vrai, mais pas de sentiments amoureux en tout cas. Et je retombe sur cette fille-là, et puis ça se passait comme ça, et ça se repasse comme ça, exactement.
Ok, vous décidez
qu'on boit un coup, okay. On discute.
Et on tire un coup.
Et on tire un coup, exactement. Et là, ça a été le premier, premier gros écart, je dis n'importe quoi, parce qu'en fait, dans ma tête, ça a été un premier déclencheur, quoi, de quelque chose qui était.
Pour toi,
vraiment...
ça a été autre chose, ça.
Ouais, c'était autre chose. Étape. Parce qu'il y avait un vrai rapport au corps de l'autre, il y avait, voilà, on a vraiment fait l'amour, on a vraiment on a passé la nuit ensemble, quoi. On n'a pas passé juste quelques minutes, un peu plus d'une minute, ensemble.
Allongé. Ok. Ouais. Ton amie est disponible à ce moment-là?
Ouais, elle est disponible, elle n'a jamais eu d'histoire longue, elle... donc elle est... Et puis elle a justement, elle a pour le coup besoin vraiment de chaleur humaine. Elle l'exprime comme ça. Elle dit j'ai besoin de sentir les bras d'un mec. Voilà,
et tu lui partages, toi, ce que tu vis à la maison?
Oui, elle connaît parfaitement ma situation pour le coup.
Et donc, du coup, assez naturellement, vous passez la nuit ensemble.
Exactement.
Et alors, c'est comment là? Parce que là, c'est très différent.
C'est très différent parce que d'abord, on se connaît.
Bah ouais.
Plutôt bien quand même. Mmh. Ça ressemble à rien de tout ce que j'ai pu vivre par ailleurs parce que c'est faire l'amour avec une amie en fait. Donc, c'est. C'est vraiment un autre truc, quoi, que quand t'as un sentiment, amoureux, qui te stimule différemment. Donc c'est très cool. Je sais à peu près comment ça va se passer. C'est chouette parce que ça me, il y a quand même ce que j'évoquais tout à l'heure, ce désir. Elle me désire vraiment. Et je retrouve un peu ça. Et
la complicité et vos 20 ans. Et...
Exactement, ouais. Et là, j'ai du coup, ça me remet un peu dans ce truc-là du désir amoureux un peu intense du sexe un peu moins plan-plan qu'à la maison et là ça réveille définitivement la bête, quoi. Donc
qu'il y avait quelques sorties autorisées, mais
mais que effectivement c'est vraiment une question de jugement de valeur, mais pour moi c'est des petites escapades qui étaient pas trop méchantes, quoi. Et voilà. Et après, ça a vraiment quand même, c'est le premier gros coup de canif quand on est dans le contrat.
C'est joliment dit.
Ouais, je sais, je vois ce que tu penses.
Il n'y a pas de jugement ici. Je comprends que là, tu as passé une autre étape et puis je pense que ça réveille autre chose.
Oui, exactement. C'est plutôt ça. C'est que déjà, tu te dis, tu parlais de culpabilité, donc tu dis, à la fois tu culpabilises et tu te dis, je suis capable de faire ça. En fait, je suis capable de faire l'amour à quelqu'un d'autre et de rentrer chez moi et dire ok, en fait, ça va, c'est presque comme si c'était rien passé. C'est pas tout à fait comme ça parce que quand même la culpabilité est là. Hein. Mmh. Mais voilà. Et
qu'est-ce que tu te dis toi à ce moment-là? Tu te dis donc ma vie, ça va être ça en fait. Ça va être ça fait presque 20 ans que je suis avec mon épouse et il y a beaucoup de tendresse entre nous. Il y a les enfants, il y a la maison, etc. Mais on s'apprécie, on se respecte énormément, mais moi, j'ai envie de vibrer. Donc, est-ce que ça va être ça, une vie clandestine?
Tu dis on s'apprécie, on s'aime en fait, hein, vraiment.
Oui, c'est-à-dire
que malgré malgré le fait que voilà, il y a des choses qui vont pas et le cul notamment.
Vous aimez.
On s'aime, voilà. On s'aime, et pour moi, à ce moment-là, il y a pas de discussion là-dessus.
Je préfère que tu me reprennes là-dessus que de t'imposer le sentiment que je ne connais pas. Donc
non,
vous
mais
vous
bien
aimez.
Sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que je te le précise parce que c'est important dans dans la mécanique, c'est de dire j'ai plein de frustrations, j'ai plein de désirs à côté, mais je suis amoureux d'elle et je veux surtout pas la perdre. Donc c'est vraiment t'es déchiré entre la culpabilité d'un côté de te dire je fais des trucs qu'il faut pas faire et qui vont si ça se sait mener à la fin du truc, donc t'as une pression incroyable par rapport à tout ça parce que t'en as pas envie au fond de toi. Donc mon état d'esprit c'est ça, quoi, c'est de me dire en fait faudrait pas que ça se reproduise, mais quelque part mon corps mes envies sont là et je peux pas lutter tout le temps contre ça. Même si
la chair est faible, comme on
dit. La chair est faible, ouais. Bah, la chair est faible, mais bon, oui. Je pense que c'est une réalisation de soi quand même, ça aussi. Et effectivement, après tout ça, se mue un peu en crise de la quarantaine, la classique.
Welcome.
Et du coup, bah là, tu commences à vraiment réaliser que tu passes à côté de choses, que enfin à réaliser en tout cas
à plus le conscientiser.
Mmh. Et à te dire, bon, bah ouais, putain, en fait, le temps passe et il y a plein d'expériences que j'aimerais avoir que je n'ai pas. Donc, ouais, je trouve mon compte de plein de côtés avec, dans mon histoire amoureuse, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ces choses-là, elles commencent à devenir de plus en plus visibles, enfin, en tout cas, à surgir de plus en plus dans ton esprit.
Les gens qui te connaissent sentent qu'il y a quelque chose qui se passe ?
Non, je crois pas, parce que quand t'es un couple de 15 ans, tout le monde pense que c'est dur quand même. Enfin voilà, c'est solid rock et enfin rock solid, et que c'est immuable, et donc finalement voilà, même si ils savent un peu, enfin en tout cas je parle de ce qui me concerne, mon environnement c'est un peu ça. Les gens ne remettent pas trop en question le truc. Puis en réalité, on s'entend bien avec ma compagne, donc les gens n'ont pas vraiment de doute. On n'est pas du tout en train de se disputer.
Mais il y a pas de changement chez toi.
Il y a pas de changement significatif.
T'as pas fait un tatouage énorme. T'as pas acheté une grosse voiture.
Non, c'est plus intérieur, quoi. Okay. C'est plus intérieur. Après, j'avais fait tout mon schéma. Moi, j'étais en couple, j'avais des enfants, j'ai acheté une maison, j'avais une grosse bagnole. Il manquait plus que le Labrador. Quoi.
J'allais te demander si t'avais un Labrador.
Non,
tu l'avais pas.
J'avais pas le Labrador. Et c'est tout ça qui d'un coup s'est remis en question. J'ai dit, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir coché des cases, mais en fait, ces cases me font chier, quoi, complètement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que
finalement,
ça m'intéresse pas beaucoup tout ça. Et c'est pas, ça m'apporte une satisfaction. Alors forcément, les gens qui sont pas passés par là te disent, attends, c'est vachement bien, t'as coché plein de cases dans ta vie. Et ouais, sans doute que c'est un cheminement, il faut passer par là peut-être pour arriver
à se rendre compte
que en fait c'est pas ça que tu veux. Ouais,
bien sûr.
Voilà. Donc
ton ami là avec qui tu avais cette amitié sexuelle, vous continuez à vous voir?
Ouais, on continue à se voir en fait régulièrement. Enfin, régulièrement, elle est dans une autre ville, donc
il
m'arrive de me déplacer dans cette ville et quand j'y suis, je l'appelle et puis. Puis ça se passe toujours comme c'est prévu que ça se passe. C'est-à-dire, on va dîner et puis ensuite on fait l'amour et puis voilà. Mais c'est vraiment une histoire qui n'a pas vraiment de conséquences parce que. Comme je te disais, il n'y a pas de sentiment amoureux. Voilà.
Ça a l'air très détendu, la façon dont tu parles.
C'est vraiment une relation amicale, mais qui a 25 ans. Donc, on se connaît depuis qu'on est ado. Je ne vais pas raconter ça, mais quand elle était, c'était à la base une copine de justement la première fille avec qui j'ai fait l'amour. Elle était très très jolie, très très bien gaulée. Et je fantasmais déjà beaucoup sur elle à ce moment-là, mais c'était rien passé. Ça s'est fait quelques années plus tard. Et voilà, et en fait on a gardé cette relation là mais la même façon qu'on l'avait 20 ans avant en fait.
Très sympa.
Et non, après en revanche j'ai commencé plus à draguer un peu, à être un peu plus dans la séduction.
Et cette séduction c'est où, enfin tu dragues où?
Je drague partout où je peux, dès que je sors. Non, mais je deviens pas le mec qui drague tout ce qui bouge, mais quand il y a une opportunité, que je rencontre quelqu'un, ça peut être une maman de copine de mes enfants.
Okay. Et là, t'étais encore en couple?
Là, je suis encore en couple, ouais.
Ok.
Mais encore une fois, c'est plus de la séduction.
Du jeu.
Du jeu, voilà. Et je pense vraiment, je cherche juste à me rassurer, en fait. J'ai pas forcément l'idée derrière de que ça va donner quelque chose. Très souvent les situations sont impossibles, enfin rien n'est impossible, mais globalement je me projette pas forcément dans un truc.
Tu disais que ta femme était jalouse, donc elle a jamais grillé une drague?
En fait c'est à partir de là que c'est un peu parti en sucette. C'est qu'elle capte ce qui se passe et elle pète un câble, quoi.
Okay.
Et elle pète complètement un câble et moi, j'essaie de lui expliquer pourquoi.
C'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est peut-être la faille qu'il fallait pour rentrer dans la discussion.
Ben, on rentre dans la discussion, mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très ouverte sur le... Alors sur le truc du cul, pas du tout. Sur, elle voit ça comme comme une une rupture de contrat, quoi. Comme un, alors que pour le coup, elle sait pas tout ce qui a pu se passer ailleurs, mais elle prend ça extrêmement mal, mais sans vraiment comprendre que en fait ça va pas très bien. Puis quand j'essaie de lui expliquer, c'est dur à dire aussi, voilà.
Et puis toi, t'as fait tout le chemin. Enfin, ça fait longtemps que tu processes ça. Elle arrive sur le fait accompli. C'est difficile de lui balancer X années de réflexion, de pas Exactement, à pas. Bien sûr, je comprends.
Et puis elle est pas du tout dans le même état d'esprit. Et puis en fait, là, je me rends compte qu'elle peut me quitter pour ça, pour en fait, c'est-à-dire ce qu'elle sait, c'est-à-dire pas grand-chose.
Donc une dragouille.
Ouais, pour une dragouille. Et en fait, moi, à partir de là, je me dis quelque part, moi, je préserve notre histoire à tout prix, même si je fais des coups de canif dans le contrat, mais pour moi, c'est le fait que elle, je me dis, elle est prête à me quitter pour une connerie comme ça, en fait, c'est chaud, quoi. Ça veut dire que ça va être compliqué. Et puis quand elle a vraiment du mal à comprendre ce désir d'homme de 40 ans, de se mettre à ma place. C'est même pas forcément comprendre, c'est pas accepter, mais c'est essayer de comprendre.
Et elle le vit pas parce que vous avez le même âge. Ouais. Elle vit pas du tout la même chose que toi.
Pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout, mais pour elle, on est vraiment sur elle envisage même pas que on puisse draguer quelqu'un d'autre, et pourtant ses copines lui disent attends, moi ça m'arrive tout le temps. Enfin, je sais qu'elle en parle à ses copines lui disent que c'est humain, normal, et que c'est pas grave, en fait, quoi. Après tout dépend où tu mets le curseur, mais que c'est juste humain, quoi. Et en fait, pour elle, c'est lunaire, quoi.
Mais tu disais qu'elle comprend pas ton désir de vouloir plaire, etc. Moi, ce que je veux savoir, c'est elle vit pas la crise de la quarantaine, elle est pas dans ce truc-là.
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout, du tout.
Ok.
Non, c'est ma crise, quoi. Okay. c'est moi qui vis ce truc-là. Et tout ça, en fait, c'est une petite rupture intellectuelle pour moi. Et finalement, là, je deviens plus ouvert, quoi, on va dire, sur quelque chose. Et il se trouve que là, je rencontre une autre personne. Avec qui est plus jeune pour le coup, enfin qui a 10 ans de moins que moi.
C'est pas cliché, les gens. Arrêtez d'en... J'entends un cliché.
Oui, je vous entends aussi. C'est très cliché. C'est très cliché, mais pour le coup, c'est elle qui vient vers moi. Donc,
on aime bien.
Ça, c'est moins cliché.
C'est moins cliché.
C'est elle qui vient vers moi.
Ça va te faire beaucoup de bien.
Ouais, ça me fait un bien énorme. En plus, c'est une fille qui est pour moi plein de qualités, qui est jolie, intelligente, qui me rentre dedans clairement, quoi. Okay. Donc au début, je dis un peu non, je joue un peu parce que je suis pas non plus complètement à l'aise à aller là-dedans, parce que c'est une nouvelle personne, pas comme
ma
copine, quoi. Au bout de quelques assauts, je finis par céder. Et en fait, on rentre dans une histoire. Au début, c'est très très cul. Et puis je passe dans une autre dimension pour moi du sexe. C'est-à-dire, c'est vraiment. Je reviens un peu à cette histoire que je racontais tout à l'heure avec la fille avec qui j'étais avant ma grande histoire.
En écoutant Lou Reed.
Voilà. Et puis c'est incroyable. Je me dis ça doit être comme ça.
C'est parce qu'elle est décomplexée.
Parce qu'elle est hyper décomplexée. Typiquement, on parle de tout, la masturbation,
le plaisir, le désir,
le plaisir, le désir. Enfin, tout, en fait, tout est sur la table. Il y a un rapport au corps qui d'un coup, elle est hyper à l'aise nue. Du coup, moi, je me sens hyper à l'aise nue alors que je ne l'ai jamais vraiment été. Dans les rapports sexuels sont sans fin. On est vraiment dans un truc d'intensité incroyable sexuellement. Et puis on est hyper compatible, en fait. La première fois qu'on couche ensemble, moi je suis quelqu'un de un peu difficile, je vais dire, quoi, mais j'ai besoin de ressentir déjà effectivement qu'il y a du désir. Le corps de l'autre, c'est pas une évidence pour moi. Je pourrais pas faire l'amour, je pense, à n'importe qui comme ça. Il faut que j'ai un truc qui me plaise, quoi. Il faut que ça coche des cases. Et là, et puis, il faut que ça marche. Il y a une chimie.
La chimie des peaux.
Exactement, la chimie des peaux. Et là, en fait, ben, la première nuit qu'on passe ensemble, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est, ça fait 100 fois qu'on l'a déjà fait, alors que c'est la première fois.
Ouais, c'est précieux ça. Parce que
c'est incroyable. Et puis, ben, les 100 fois qui ont suivi, c'était pareil. Et donc là, je tombe amoureux de cette fille, évidemment. Mm. Elle tombe amoureuse de moi. Et donc, je vis une histoire parallèle, une double vie, hein, pendant plusieurs mois. Et
comment t'arrives à le gérer ?
Très bien. Très, très bien.
Okay.
En fait, il y a une excitation incroyable à faire ce truc-là. D'un coup, tu deviens un agent secret, quoi. Mm-hmm. Moi qui pensais ne pas savoir mentir, je me révèle un menteur hors pair. J'ai un sang-froid incroyable, je me sors de situations très compliquées avec un sang-froid.
Est-ce que tu arrives à passer des nuits avec ton amante ?
J'arrive à passer des nuits avec mon amante, j'arrive à la voir même pendant le confinement. Sans labrador, exactement.
Ça même pas.
On se retrouvait dans une petite ruelle sombre. Alors c'était
ça
court,
devait
mais
intensifier en plus
ça
le
devait
désir.
Intensifier encore plus le truc et puis voilà, comme c'était clandestin, de toute façon c'était toujours dans des situations improbables, incroyables. On a tout essayé, je pense, hein. On a fait l'amour dans le train, ce qui était incroyable.
Oh waouh, dans le train.
Ouais, c'était un fantasme ultime pour moi.
Beau gosse, hein.
On l'a fait, quoi.
Mais dans le train.
Dans le train, dans le TGV, quoi.
Ok, dans le TGV.
Mais voilà, donc évidemment il y avait la clandestinité, il y avait
L'intensité.
Et d'ailleurs, j'arrivais pas à savoir si l'intensité était liée à la clandestinité. C'était un problème pour moi de me dire, est-ce que finalement, si demain je me mets en couple avec cette personne, ça va être aussi bien? Peut-être ça va être nul d'un coup.
Oui,
et elle, évidemment, comme souvent dans ces histoires, je vous entends encore, moi aussi, les auditeurs.
Ils sont très bruyants. Ils sont très bruyants aujourd'hui.
Mais non, c'est, voilà. Et effectivement, j'arrive pas à partir et je la perds parce que je ne peux pas partir et qu'elle me dit...
Ton amante te dit au bout d'un moment, moi je peux plus.
Stop, quoi.
Et donc là, tu deviens chagrin d'amour.
Et là, ça devient chagrin d'amour. Chagrin d'amour dont je ne me remets pas, en fait, parce que je suis chez moi. Alors, pour le coup, c'est moi qui n'ai plus aucun désir, mais vraiment plus aucun désir. Mm-hmm. Parce que tout ça me paraît alors encore plus fade qu'avant. Et du coup, la relation chez moi se dégrade.
Ta femme s'en rend compte ?
Elle se rend compte que ça se dégrade, oui, ça. Parce que c'est pas juste le sexe, là aussi, c'est
oui,
tout ce qu'il y a autour,
c'est
les attentions.
C'est l'humeur, c'est tout.
C'est l'humeur, c'est l'attention. Puis voilà, tu baisses clairement d'un cran dans la relation affective. Et puis voilà, le désir est mort. C'est-à-dire, je n'arrive plus du tout à lui faire l'amour. Ça devient impossible et même presque. C'est-à-dire, je.
Épidermique, tu peux.
Épidermique, j'y arrive plus, ouais. Ouais. J'y arrive plus et pourtant, j'essaye. Je me dis, il faut que ça va peut-être revenir, il faut qu'il y ait du temps qui passe après cette histoire. Et en fait, ça n'arrive jamais.
Et donc là, on est sur la fin de votre histoire de marital.
Ouais.
Comment ça se termine complètement ? Qui arrache le sparadrap ?
Tous les deux, en fait. Parce que on se rend compte que ça ne mène nulle part, tout ça. Et pour le coup, on a enfin une vraie discussion autour de ça. Et on se dit que, sans forcément mettre tous les sujets sur la table, hein, donc on parle toujours pas du fait que sexuellement ça va. Enfin, on en parle un peu, mais ça reste un peu en.
C'est en mineur, quoi, par
en
rapport
mineur,
à
mineur, exactement. Ouais. Et du coup, on se dit que, voilà, on n'y arrive plus, on n'a plus de désir l'un pour l'autre, et que, de toute façon, si c'est comme ça, vaut mieux arrêter. Et voilà.
Donc, c'est une discussion qui est douloureuse.
C'est une discussion qui est douloureuse.
Elle te soulage ?
Mais, ouais, qui est un soulagement, en fin de compte, parce que je me dis que c'est sûrement ce que j'aurais dû faire. En fait, je voulais pas partir non plus. Je voulais pas être justement dans aussi ce schéma du mec qui quitte sa femme pour une fille plus jeune et qui laisse ses enfants en plan. J'avais énormément de mauvaise conscience par rapport à tout ça, le fait de lui faire mal, le fait de faire mal aux enfants. Donc, j'aurais pas voulu ça. Donc, quelque part, je regrette pas la décision que j'ai prise parce que je pense que ça correspondait à mes valeurs en tout cas. Et en même temps, j'ai perdu, la femme que j'aimais éperdument à ce moment-là, et la femme qui était celle avec qui je partageais ma vie, avec qui j'avais des enfants. Donc c'était un peu dur, ouais.
Et ça, c'était quand ?
Il y a quelques mois.
Ok. Donc là, aujourd'hui, tu t'en es où ? Tu remontes un peu la pente ?
Là, aujourd'hui, je remonte un peu la pente. J'essaie de...
Donc le divorce n'est pas prononcé ?
Non. Le divorce n'est pas prononcé. Donc voilà, on a fait le choix de continuer à vivre ensemble malgré la séparation quelques mois. On a la place et puis en fait, on s'entend bien. Donc,
d'accord.
Ça pose pas de problème. Après, on s'est dit qu'il fallait surtout... Enfin, il fallait le faire parce que de toute façon, il fallait qu'on aille chacun vivre nos vies. Que les enfants aussi comprennent vraiment que c'est, la séparation était active.
Sans forcément donner leur âge, ils sont grands, tes enfants ?
Ils sont ados, ouais.
Ils sont ados. Donc, ouais. Ils sont en conscience de ça ?
Ils sont en conscience. Ils ont été très en colère.
Bien sûr.
Mais ça va, maintenant ça va un peu mieux.
C'est bien de marquer la séparation réellement.
C'est bien de marquer la séparation, donc là c'est fait. Mais bon, pour plein de questions, c'était pas forcément possible départ.
Ah, logistiquement, oui, c'est compliqué. Voilà. Hein.
Et donc donc maintenant, clairement, j'ai envie de me remettre dans une vie, plutôt une vie sexuelle active, pas forcément une vie sentimentale, parce que
pas tout de suite.
Voilà.
Et ton amante,
ouais.
Tu lui as dit que ton épouse et toi avaient.
Ouais, je lui ai dit, mais entre temps, elle a déménagé. A changé de ville, elle est allée vivre assez loin.
Ah oh, mince.
Et donc nos chemins se croisent pas trop, quoi. Et j'ai toujours un peu, vrai, dans ma tête, l'espoir qu'on se recroise un jour dans un supermarché ou je sais pas où, ouais. Et que voilà, ça reparte. C'est toujours dans un fond, coin au fond de ma tête, mais quand on s'est quitté, on a arrêté de se parler, on a coupé les ponts.
Sûr, donc, c'était douloureux sinon.
Donc j'ai quelques infos sur ce qu'elle devient, mais par personne interposée. Mm-hmm. Et j'en prends pas directement.
Ouais, après elle était peut-être la bonne. T'en as pas pris. C'est pas toi qui lui as annoncé que vous étiez séparés avec ton
fils ? Non, elle l'a su. Elle a su par d'autres personnes. Ouais.
Pourquoi tu lui dis pas ? Pourquoi tu...
Parce qu'on est parti pas fâché, mais un peu quand même, quoi. Et puis elle m'a dit
qu'elle ne voulait plus tes nouvelles.
Ouais, elle m'a dit qu'elle voulait plus entendre parler de moi, donc.
Oui. Bon, là, tu respectes
son choix. Ouais.
Je comprends. Ok. Ouais. Oui, donc là, on est en phase de cicatrisation.
Exactement. Ouais.
Le plan, c'est quoi ? C'est de se redécouvrir, de.
Ouais, donc j'ai 45 ans et j'ai besoin de redécouvrir un peu la vie, parce qu'en fait, la vraie vie, d'aller justement dans la vraie séduction, d'aller jusqu'au bout d'une séduction, de pas tomber amoureux, parce que j'ai pas envie de tomber amoureux. Et c'est quand même une faculté à tomber amoureux.
C'est pas toi qui vas décider.
Non, c'est pas moi, je sais très bien.
Non,
mais
c'est vrai. Non, mais séduire, c'est vrai, avec la liberté de pouvoir séduire.
Ouais.
Ça va te faire du bien.
Mais ça, c'est une nouveauté incroyable.
Bah, bien sûr.
C'est-à-dire que quand tu vas dans un bar et que tu commences à parler à une fille et que tu dis, mais en fait, je peux finir avec elle dans mon lit ce soir si je veux et ça pose aucun problème, c'est tout con.
Ouais,
mais quand
libérateur.
Ça t'arrive après 20 ans de vie commune, tu c'est un truc vraiment nouveau.
Bien
c'est
sûr.
Assez marrant. Donc, y a tout ça que j'ai envie juste de kiffer, en fait. Juste de me dire, c'est possible, je vais doucement, je ne suis pas dans le délire de me dire, ok, je vais me taper tout ce qui bouge pendant 6 mois, peu importe, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de me faire plaisir. Je sais aussi, parce que j'ai 45 ans, beaucoup plus que je veux, beaucoup
bien
plus
sûr.
Que je ne veux pas aussi.
Important, ça.
Et
il y a des choses que tu veux explorer sexuellement ?
Ouais, il y a plein de choses que je veux explorer sexuellement. On a parlé de. Tu m'as pas posé la question d'homosexualité.
C'est vrai,
je la pose souvent.
C'est vrai, mais c'est vrai.
Alors, j'ai pas du tout de désir pour
les garçons.
Pour les garçons, mais vraiment, c'est-à-dire, en fait, j'ai une tentation. J'ai envie de savoir un peu ce que ça peut faire, même d'être pénétré, d'avoir un sexe dans la bouche. C'est un truc qui m'interpelle, qui me...
Tu peux te faire pénétrer par une femme, mais c'est vrai que le sexe dans la
ouais.
bouche, bon, ça va être plus...
Tout à fait.
Donc t'es le fameux hétéro-curieux.
Le hétéro-curieux, tout à fait.
Le fameux.
Le fameux. Et donc, je pense que ça serait plutôt dans le cadre d'un plan à trois, tu vois, ouais, avec une fille, un autre gars, plutôt comme ça, que seul avec un mec, je me sens pas.
Après, t'es libre, tu verras.
Bah ouais, complètement. Mais en tout cas, j'ai envie d'explorer tout ça, j'ai envie d'explorer le plaisir prostatique, bien j'ai sûr. Envie d'explorer plein de choses un peu nouvelles et voilà.
Je suis en fait. T'as le bon âge pour y aller là, en plus.
Ouais, c'est maintenant. J'ai vraiment envie d'aller explorer, de redécouvrir la sexualité, de me dire bah voilà, c'est je pense un monde qui est encore très ouvert pour moi. Mm-hmm. Et voilà.
Et cette liberté, elle est pas trop vertigineuse là ?
Pas du tout.
Super.
Mais alors pas du tout, elle est très inspirante, très, très excitante, et vertigineuse non, parce que comme j'ai dit, après moi je me connais, je connais mes limites, je pense justement qu'il faut que je repousse un peu mes limites, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai exploré par ailleurs avec mon amante à ce moment-là, parce que justement la pénétration par une femme, je l'ai expérimenté avec elle. Donc non, c'est pas vertigineux, c'est juste voilà ce qui l'est plus, c'est de dire ben voilà, il faut trouver les bons partenaires. Ça me fait un peu peur de me dire est-ce que je vais retrouver cette osmose, parce qu'en fait quand t'as vécu un truc aussi intense comme ça,
j'imagine, ouais.
Tu c'est un peu comme l'héroïne, tu sais, on dit tu cherches toujours
la première dose,
ouais. Ben là j'ai un peu cette angoisse là de me dire c'était un peu mon héroïne, quoi.
Je pense que le temps va faire son œuvre, hein.
Ouais,
c'est vraiment une phrase de bon gros daron. Moi j'avais une question à te poser, qu'est-ce que tu dirais au Julien de 25 ans?
Ben, ce que je dirais au Julien de 25 ans, je sais pas, parce que j'ai pas de regrets sur la façon dont j'ai mené ma vie. Je pense que comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, voilà, j'étais dans un schéma de vie, il fallait cocher des cases, il fallait voilà, et je me dis bah j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'est vrai que si je devais revenir en arrière, je me dirais essaie vraiment de sortir de ton carcan social, familial, essaie de ça va pas forcément changer ta trajectoire, mais ça va peut-être enfin ça va sûrement changer ta façon de penser, essaie de te libérer de tout ça, parce qu'en fait c'est hyper lourd. Mais quand on a 25 ans, je crois qu'on s'en rend pas forcément compte. Et à 45 ans, complètement.
Et justement, tu penses quoi de cette génération qui est beaucoup plus... alors, paradoxalement, moi qui suis pas mal, les sujets ne font pas beaucoup plus l'amour que les générations passées, mais sont quand même beaucoup plus au fait sur les pratiques, sur la sexualité.
Beaucoup qu'est-ce plus que... libéré. Ouais.
Exactement, t'en penses quoi de ça?
Bah moi je trouve ça très très bien, ouais. Moi j'ai des enfants, j'essaie de, alors là pour le coup il y a un petit sujet justement sur la vision éducative avec avec mon ex, parce que elle est très tradie. Mais moi j'essaie de les ouvrir là-dessus, de leur dire en fait à partir du moment où vous êtes d'accord, à partir du moment où vous avez envie, vous faites ce que vous voulez, moi je vais pas vous juger, donc je suis et je sais que de toute façon ça se passe comme ça, et je pense qu'il y a un vrai pour moi c'est très bien que ça se passe comme ça, et
t'as envie de casser cette pudeur, même si évidemment vous allez pas vous raconter vos vies perso, mais t'as envie de pas les élever dans cette pudeur qui doit être étouffée.
Exactement, je pense que c'est important de se connaître, c'est important de d'explorer, c'est important de toujours dans le consentement, dans l'envie aussi, dans le désir. Mais oui, pour revenir à ta question sur le Julien de 25 ans, il faut pas avoir peur de briser ce qui peut sembler être des tabous, des idées reçues sur un certain nombre de choses. Et c'est en ça que cette génération-là, j'ai l'impression qu'eux, ils sont vraiment détentes, quoi. Par rapport à tout ça.
C'est clair. Mais je vous mettrai d'ailleurs dans les notes du podcast quelques comptes qui sont toujours très intéressants là-dessus. Je pense notamment à Charline du compte Orgasme et moi.
Ouais.
Quelle serait la conclusion, Julien, de cet entretien?
Bah la conclusion, c'est, je faisais référence à l'épisode de
Sébastien
tout à l'heure. J'aurais un peu la même que lui, c'est-à-dire que je pense que il faut pas, enfin il faut, on peut rester une relation, c'est toujours une relation dans laquelle il y a du pour et du contre, et donc il faut arriver à bien peser ça, mais il faut arriver à se dire que finalement, moi, j'ai eu ce truc-là pendant très longtemps de me dire, et d'ailleurs, mon amante m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu préfères être malheureux que de rendre malheureux les autres. Et ça a été effectivement un leitmotiv pendant longtemps, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en étant malheureux, je rendais malheureux les autres. Donc finalement, c'était une erreur de calcul. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu, ça pourrait être la conclusion.
Donc soyez heureux pour rendre heureux les autres.
Exactement.
Merci Julien.
Merci à toi.
Merci à Julien pour sa transparence et merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Je vous rappelle que c'est toujours un exercice d'être en face de moi, que ce soit en vrai ou pas, hein, mais de raconter son histoire, de raconter l'intimité, parfois les histoires dont on n'est pas très fier. Je sais que ça va sûrement parler à beaucoup de gens de l'infidélité, que ce soit des gens qui la commettent, qui l'ont commise, ou des gens qui le vivent en tant que trompés. J'espère que ça vous donne des clés, j'espère que ça vous ouvre les yeux, j'espère pas, mais en tout cas que ça vous permet d'avancer, que ça vous permet de répondre à quelques questions que vous posez. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en parler, notamment sur le Discord du podcast, hein, vous avez le lien dans les notes qui accompagnent le podcast, comme d'habitude. C'est super, on est plus de 150 et c'est vraiment hyper intéressant de se parler sur ce forum. Également, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que c'est très très important pour le podcast afin qu'il gagne en visibilité. C'est important. Donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et un avis cool. C'est sympa, un avis cool. À très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.